Eh bien, bonjour. Nous voilà déjà à la moitié du mois de janvier, ça va vite, hein. Et nous en sommes à la cinquième prédication au sujet du plan complet du salut. Ne pensez pas que Jésus est venu sur cette terre mourir sur la croix juste pour que vos péchés soient pardonnés, que vous puissiez avoir accès auprès du Père après votre mort. Vous avez accès auprès du Père sans arrêt, tout au long de votre vie. Si vous écoutez ce que le Saint-Esprit dit dans la Bible, eh bien, il n'y a aucun problème pour vous. Vous êtes sauvé. Sauvé de quoi ? Sauvé de toutes sortes de difficultés que nous devons affronter. Les impondérables, des choses qui arrivent à tout le monde. La Bible dit que le soleil brille pour les pécheurs comme pour les justes. La pluie tombe sur les méchants comme sur les gentils. Donc, voilà, il y a des impondérables. Et puis, il y a aussi des épreuves que Dieu peut nous envoyer. Et puis, il y a aussi les difficultés que les gens peuvent nous occasionner alors qu'ils sont manipulés par des esprits mauvais. Je vous l'ai expliqué, je vous l'ai dit dans les prédications précédentes. Alors, on a appris beaucoup de choses, justement, dans ces messages précédents. Et nous savons que Dieu nous a choisis. Et que si nous sommes encore sur la terre, eh bien, c'est pour démontrer aux forces obscures, justement, la sagesse infiniment variée de Dieu, pour glorifier Dieu par notre comportement. Et c'est là que nous étions restés la dernière fois, lors de la dernière prédication, sur le sujet, justement, du plan complet du salut. Alors, nous sommes sur cette terre, mais nous n'y sommes pas abandonnés. Prions. Seigneur mon Dieu, je te prie pour que ton esprit éclaire chacun et chacune à l'écoute de ce message, pour que chacun et chacune puisse marcher selon ton esprit et non pas selon sa chair, son imagination et ses sentiments. Merci Jésus. Amen. Alors, le Seigneur est avec nous. Il a dit à ses disciples, c'est-à-dire à ceux qui marchent d'une façon disciplinée avec lui, il a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et il ne fait pas ce qu'il attend que nous devons faire. Il y a des choses que nous devons faire, ces choses sont écrites, nous avons à les faire, et il ne va pas les faire à notre place. Il ne répond pas aux prières qui vont contre sa volonté. Alors, comment savoir ce que Dieu veut ? Eh bien, en méditant justement ce que Dieu nous a dit. En fait, la Bible, c'est la lettre de Dieu aux hommes. Il a permis que nous ayons cette lettre pour que nous puissions connaître ce qu'il veut, comment il est, quel est son caractère, ce qu'il attend de nous. Et nous connaissons donc sa volonté par les Écritures. Il a dit, c'est pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume de Dieu, mais seulement ceux qui font ma volonté. Alors, il faut leur connaître sa volonté. Et sa volonté, ce n'est pas le fruit de notre imagination, c'est ce qu'il dit lui. Hein? Et quand nous ne savons pas ce que nous devons demander parce que la situation est trop complexe, alors nous laissons prier le Saint-Esprit au travers de nous avec le don des langues. Vous avez sans doute entendu parler du don des langues, les apôtres, le jour de la Pentecôte, en fait, ils étaient 120 personnes, ils ont reçu le don du Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit, l'immersion dans le Saint-Esprit, ils se sont mis à parler en d'autres langues. Et cela n'a jamais arrêté, c'est toujours encore aujourd'hui d'actualité. Et quand nous parlons en langue, évidemment c'est notre langue, c'est nous qui parlons, c'est notre l'organe, je veux dire, c'est notre langue qui bouge, c'est nous qui émettons des sons. Mais c'est selon ce que l'Esprit veut. On va lire dans Actes chapitre 2, verset 4. Voilà ce qui est écrit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait l'élocution. Le Saint-Esprit nous donne l'élocution miracle, c'est-à-dire la manière de s'exprimer et vocalement, oralement, et d'enchaîner les phrases. C'est ça, l'élocution. Le mot élocution signifie précisément manière d'articuler les sons en parlant ou prononciation. Donc, dans le texte qu'on vient de lire, dans Acte 2, 4, nous venons de lire, ce que nous venons de lire nous dit que les apôtres ont commencé à parler en d'autres langues que la leur, en d'autres langues que la leur, selon la manière d'articuler les sons en parlant comme le Saint-Esprit leur donnait de parler. Et voilà, qu'ils se sont mis à parler dans des langues étrangères, et les gens les comprenaient. Alors là, il faut être croyant pour croire ça. Il faut être croyant, mais nous sommes croyants, vous venez sur Révélation Bible, vous êtes croyants. Eh bien, croyez cela aussi. Il faut aussi être un croyant qui croit que ce pouvoir n'a pas été donné qu'au 120 le jour de la Pentecôte, dans la chambre haute, mais que cela a été donné et continue à être donné à tous ceux qui croient. Je n'invente pas ça. Comme vous le savez, toujours ce que je vous enseigne, je le tire des Saintes Écritures et je vais vous montrer dans Marc chapitre 16. Il est dit clairement, et ces signes accompagneront ceux qui croient. Premièrement, ils chasseront des diables, des démons en mon nom. Ils parleront de nouvelles langues, voilà, et puis beaucoup d'autres choses. Alors, j'ai des amis mormons qui m'ont dit, ah, mais nous apprenons des langues et pour pouvoir évangéliser, voilà, c'est ça le don des langues. Je dis, non, c'est pas ça le don des langues. Si c'est ça le don des langues, alors même les païens parlent en langue par le Saint-Esprit. Il faut pas dire n'importe quoi. Il y a un don miraculeux de pouvoir s'exprimer dans des langues que nous n'avons pas apprises. On peut apprendre l'anglais, l'italien, le chinois, tout ce que vous voulez, en allant à l'école, en apprenant dans les livres, il y a toutes sortes de méthodes pour apprendre à parler des langues différentes. Mais là, c'est un don surnaturel, de pouvoir parler la langue des hommes ou la langue des anges, nous dit la Bible. Donc, ceux qui croient, hein, on vient de lire dans Marc 16, 17, tous ceux qui croient, ils font ça, ils peuvent faire ça, il n'y a pas de problème. Simplement, il faut savoir que ça existe et prier, demander à Dieu pour que Dieu vous donne ce don. Alors, nous ne sommes pas obligés, chaque fois que nous prions, de prier dans les langues du Saint-Esprit. Nous pouvons aussi prier avec notre intelligence, c'est certain. Alors, on va lire 1 Corinthiens 14, 14. Car si je prie dans une langue inconnue, c'est-à-dire la langue de l'Esprit, mon esprit prie, mais ma compréhension, mon intelligence est infructueuse, ou dans d'autres versions, stérile. Or, Dieu aime que nous l'invoquions avec la compréhension, avec l'intelligence que nous avons, de ce que nous disons. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Jérémie 33, 3. Jésus nous enseigne donc que nous devons demander pour recevoir, que nous devons chercher pour trouver, que nous avons à frapper à la porte de la salle du trône de Dieu afin que cette porte soit ouverte. On lit ça dans Luc 11, 9, 10. Luc 11, 9, 10. Il est dit là. Et je vous dis, demandez, il vous sera donné, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et celui qui frappe, il lui sera ouvert. Alors, que demander, que chercher, à quelle porte doit-on frapper? Voilà les trois grandes questions. Jésus nous enseigne que nous devons prier le Père. Vous vous rappelez dans Matthieu 6, 7, 9, les disciples ont dit « Apprends-nous à prier », et il leur a dit « Ben voilà, il faut prier le Père ». Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Vous connaissez tous ce texte dans Matthieu 6, 9. Notre Père qui es aux cieux. Nous prions le Père. Plus tard, Jésus a complété son enseignement en disant à ses apôtres de prier le Père, mais au nom de Jésus, c'est-à-dire de la part de Jésus. Quand vous priez au nom de quelqu'un, vous priez de la part de quelqu'un. Quand vous faites quelque chose au nom d'une personne, vous faites la chose de la part de la personne. C'est bien clair. C'est pas magique. On dit pas au nom de Jésus comme une formule abracadabra. On dit, on prie au nom de Jésus, c'est-à-dire, on souligne le fait que nous prions le Père de la part de Jésus qui vit en nous. On lit Jean 14, 10. Jean 14, 10, 14. Il est dit là, Jésus parle et dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père ? Jésus était un homme comme tous les autres hommes sur la terre, il n'avait pas une auréole, il ne brillait pas d'une façon spéciale, il était un homme parmi les hommes, et il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Comment quelqu'un peut être dans quelqu'un et cette même personne qui est dans la personne, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Ça veut bien dire, ils font un, ils sont un. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi. Lui, il fait les œuvres. Croyez-moi que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Sinon, croyez-moi à cause des œuvres mêmes. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, il fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes œuvres que celles-ci, parce que je m'en vais au Père. Et quoi que vous demandiez en mon nom, cela je le ferai, afin que le Père puisse être glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alors, ça paraît très embrouillé, mais Jésus fait exprès. Il fait exprès afin que ceux qui ne veulent pas comprendre ne comprennent pas. Jésus nous révèle beaucoup de choses dans ces quelques paroles. Premièrement, qu'il est sur terre, il était sur terre, il était habité par le Père. Son corps était habité par le Père. C'était l'Esprit du Père. Deux, il nous apprend qu'il est sur terre dans le Père. Pas à côté, pas en dessous, dedans. Et s'il dit, le Père est à côté de moi, bon voilà, on pourrait dire, voilà, ça fait deux personnes distinctes. Non, il dit, je suis dedans et il est dedans, nous sommes un. Et ce qu'il dit, ce que les gens entendent sortir de la bouche de cet homme qui est là devant eux, ces paroles, il ne les dit pas de lui-même. Il affirme ça, il dit, c'est pas de moi-même que je dis ça. En tant qu'homme que vous voyez, c'est pas l'homme qui dit ça. Mais ces paroles, ces actes, ces miracles, tout ça, ça vient du Père qui est en moi. Vous comprenez tout cela. Donc sur terre, il y avait un homme en qui le Père habitait. Jésus le dit, le Père est en moi. Ensuite il dit, et tout ce que je dis, et tout ce que je fais, c'est le Père qui le dit et qui le fait. Donc c'est qui fait ces choses ? C'est le Père qui vit dans ce corps humain. L'ange a dit à Marie, à Joseph, tu lui donneras le nom de Jésus, tu lui donneras le nom d'Emmanuel, parce que Emmanuel, ça signifie Dieu avec nous. Jésus, c'était Dieu avec nous. Il n'y a pas trois, quatre dieux, il y en a un. Et Jésus, quand il se baladait sur cette terre, il était Dieu fait chair. Mais ça ne l'empêchait pas en même temps d'être sur la planète Mars et partout dans l'univers en même temps, parce que Dieu est omniprésent. Mais il était d'une façon particulièrement présente en Jésus-Christ, visible. Il était l'image du Dieu vivant. C'était quelque chose de particulier à ce moment-là. Et Jésus leur dit, si vous ne voulez pas croire que je suis dans le Père et que le Père est en moi, croyez ce que je vous dis, au moins à cause des miracles, parce que personne ne peut rendre la vue aux aveugles, faire marcher des paralytiques, si ce n'est par la puissance de Dieu. Je connais des hypnotiseurs qui peuvent vous faire passer des petites douleurs, des machins, mais ils peuvent pas rendre la vue à un aveugle. Moi, oui, au nom de Jésus, je peux le faire. Vous pouvez le faire, au nom de Jésus, vous pouvez le faire. Tout ce que vous demanderez, il le fera. Mais il faut le demander au nom de Jésus. Il a dit, les choses que j'ai faites, vous ferez même des plus grandes. Si seulement vous croyez, si vous croyez quoi? Si vous croyez ce que je vous dis, pas si vous croyez ce que vous imaginez. L'imagination est fertile, il faut la brider. Il faut croire ce que Jésus dit. Alors il termine en disant que ceux qui croient en lui, Jésus le Fils en qui est le Père, ceux-là feront donc les mêmes miracles que lui, et même des plus grands, ils agiront, ils auront un comportement semblable au sien. Alors là, il nous donne une clé. Demandez en mon nom, c'est-à-dire au nom de Jésus. Jésus qui est, je vous le rappelle, Emmanuel, c'est-à-dire Jésus qui est Dieu avec nous. Jésus, c'est le Père avec nous. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la peine à comprendre ça. Voici un fils nous est donné, on l'appellera Prince de la Paix, Père éternel, Ésaïe. Voilà. Mais si vous ne voulez pas, vous êtes libre. Dieu ne va pas en faire toute une histoire, mais c'est vous qui vous privez de grandes bénédictions. C'est vraiment dommage. Parce que vous êtes dans une espèce de confusion, un mélange de mélasse religieuse. Croyez ce qu'il dit, croyez ce que Jésus dit simplement. Si vous demandez au Père, qui est en moi, une chose, en mon nom, je le ferai. Est-ce que vous avez cette révélation? Si vous ne l'avez pas, demandez et vous recevrez cette révélation. Demandez au Père en disant, au nom de Jésus, mon Dieu Père, je te le demande de me révéler si ces choses sont vraies. Et le Saint-Esprit va vous le révéler et vous allez le comprendre. Alors le diable ne veut pas que vous priez selon l'ordre établi par Jésus. Alors il a inventé toutes sortes d'hérésies qui trompent les gens et qui les laissent dans les ténèbres de l'incompréhension et du non-exaucement. Ou alors de temps en temps, il y a un petit truc qui se passe pour bien séduire encore davantage les gens. Vous savez, le diable ne guérit pas, il ne fait que de déplacer les maladies. Vous ne saviez pas ça, hein? Il n'a pas le pouvoir de guérir, il a le pouvoir de déplacer les maladies. On va lire Marc chapitre 11, verset 24. Marc 11, 24. Voilà ce qui est dit là. Je vous dis, toutes les choses que vous désirez lorsque vous priez, croyez que vous les recevez et vous les aurez. Il nous donne encore cet enseignement. Il faut croire que ce que vous demandez au Père en son nom, il vous faut croire que vous les recevrez et vous les aurez. Mes frères et sœurs, que vous soyez catholique, protestant, baptiste, pentecôtiste, peu importe ce que vous êtes, vous devez vous mettre en ordre selon la parole de Jésus. Vous ne pouvez pas avoir des croyances fantaisistes enseignées par votre religion, qui peut être très jolie, mais il y a des fantaisies dans les religions. Il y a un ordre établi pour ceux qui croient, et comment dire ça? Je vais vous donner un exemple. L'autre jour, j'ai commandé cette fameuse Bible, le Nouveau Testament, avec psaumes et proverbes, traduction en français de la Bible King James. Je l'ai commandé. Comment j'ai fait pour la commander? Quel processus pour la recevoir? Eh bien, je suis allé sur Google, j'ai tapé Amazon, et puis quand je suis arrivé sur Amazon, j'ai précisé que je voulais un livre, j'ai donné le titre du livre, après j'ai donné mon adresse, et puis mon numéro de carte Visa, et puis j'ai dû confirmer ma commande. On doit faire ces choses-là dans l'ordre si on veut recevoir quelque chose d'Amazon. Je ne peux pas mettre un numéro de carte fantaisiste ou une adresse fantaisiste, non. Il doit y avoir de l'ordre en tout. Et si je fais bien comme il faut, eh bien, je crois que je vais recevoir le bouquin que j'ai commandé, et qu'est-ce qui se passe, en effet, je le reçois. Je reçois ce que j'ai demandé, j'ai reçu mon bouquin. Vous voyez, il y a un processus. Eh bien, pour tout, c'est comme ça. Dieu est un Dieu d'ordre. Si ce n'était pas un Dieu d'ordre, vous vous rendez compte, s'il n'y avait pas des lois, s'il n'y avait pas la loi de la gravité, la loi de la pesanteur, s'il n'y avait pas toutes ces lois, mais ça serait invivable. Et Dieu est un Dieu d'ordre. Il n'y a pas de place pour la fantaisie sentimentale ou religieuse. Avec Dieu, s'il y a de l'ordre. On va lire 1 Corinthiens 14, 33. où cela est dit clairement. Alors, à Corinthiens 14, 33. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. S'il y a le désordre, il n'y a pas la paix. Vous n'êtes pas en paix, vous ne recevez pas ce que vous demandez, vous vous demandez pourquoi, ah ben c'est peut-être parce que j'ai péché. Tout. Non, il y a un Dieu, Dieu est un Dieu d'ordre, ce n'est pas un Dieu de désordre. Vous ne pouvez pas vous permettre de demander à Dieu n'importe comment, dans n'importe quel sens, voilà, avec tous les bons sentiments que vous avez, ça ne marche pas comme ça. Je suis désolé, mais si Jésus nous a enseigné à prier, ce n'est pas pour qu'on fasse le contraire. C'est ni à vous, ni à moi d'établir des règles, des nouvelles règles. Non, 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 non. C'est Dieu qui est en vous, en Jésus, par Jésus-Christ, qui va vous donner ce que vous demandez, mais il faut que vous obéissiez, il faut que vous vous soumettiez à cette loi. Si je ne me soumets pas à la loi de la pesanteur, je casse tout, hein. La gravité, toutes ces choses-là. Dieu qui est en vous, et qui est en Jésus-Christ, pour que nous sachions comment être exaucés, il nous a parlé, ce Dieu. Il a parlé à ses apôtres qui ont écrit ces choses. Et on vérifie que c'est vrai en mettant en pratique ce qui est écrit. On peut croire que c'est vrai puis rien faire, mais le mieux c'est de croire ce qui est dit et d'agir en conséquence. Et là vous allez être certain que ce qui est écrit est vrai. Il y a beaucoup de gens qui vous disent « Oui, mais la Bible qui nous dit que c'est vrai ?» Ben, il suffit de la mettre à l'épreuve de votre expérience et vous allez voir que ça marche, c'est vrai. Et si on est un croyant, un vrai croyant, on ne discute même pas. On obéit à Jésus, on fait ce que Jésus dit, mais ça vous coûte quoi de faire ce que Jésus dit ? Pourquoi est-ce que vous voulez absolument prier autrement ? Alors, vous appartenez à la famille de Dieu, à la famille royale. On va dire, je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. On va dire 1 Pierre 2, 5, 9. Écoutez bien ça, c'est magnifique. 1 Pierre 2, 5, 9. Vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés en une maison spirituelle, une sainte prêtrise pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. C'est-à-dire que vous êtes les pierres de son temple, hein. C'est pourquoi vous aussi, il est contenu dans l'Écriture. Non, c'est pourquoi aussi il est contenu dans l'Écriture. Voici, je place en Sion une pierre maîtresse du coin, élue, précieuse, et celui qui croit en lui ne sera pas décontenancé. À vous donc qui croyez, il est précieux, mais à ceux qui sont désobéissants, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée, celle-là même, est devenue la pierre du coin, la pierre qui tient l'édifice. Alors, on est construit sur un fondement, sur Jésus-Christ, qui est la première pierre qui a été posée sur terre, Dieu dans un homme, et puis nous sommes des hommes, des femmes, en qui le Seigneur vit aussi, et nous sommes rajoutés à cette construction, et nous obéissons, et nous croyons en lui, nous faisons ce qu'il dit, et nous ne sommes pas décontenancés. Mais ceux qui désobéissent sont décontenancés. Ils rejettent la pierre principale, c'est-à-dire Jésus, ils rejettent les paroles de Jésus, ils rajoutent des trucs, des dogmes, des doctrines bizarres, et donc ils ont rejeté les paroles de Jésus. Et puis voilà. Alors après, il dit, c'est devenu pour eux, pour ceux qui désobéissent, une pierre d'achoppement, et un roc d'offense, c'est-à-dire que, comme on dit en Suisse, ils s'en coublent, ils trébuchent dessus. Et puis, ils offensent Dieu. C'est-à-dire à ceux-là qui trébuchent contre la parole. Vous voyez, il dit, ceux qui désobéissent, pour eux, Jésus, la pierre est devenue une pierre d'achoppement, et un roc d'offense, c'est-à-dire à ceux-là qui trébuchent contre la parole, parce que Jésus est la parole faite chair, mais maintenant ces paroles ont été transcrites dans un livre, la Bible. Donc c'est devenu pour eux, ceux qui désobéissent, ceux qui ne veulent pas écouter la parole, c'est devenu une pierre contre laquelle ils trébuchent. Ils trébuchent contre la parole, c'est écrit. Étant désobéissants, ils trébuchent contre la parole. Il dit, mais vous, vous êtes une génération choisie, une prêtrise royale, une sainte nation, un peuple particulier, afin que vous déclariez les louanges de celui qui vous a appelé hors de l'obscurité à sa merveilleuse lumière. Alors sortez, si vous êtes encore dans l'obscurité des traditions religieuses, sortez de cette obscurité, revenez à Jésus, revenez à la parole, et vous serez bénéficiaire et vous ferez bénéficier de la grâce et de la lumière à tout votre entourage. Vous êtes de la famille de Dieu. Vous voyez, nous avons lu que celui qui trébuche contre la parole de Dieu, c'est celui qui est désobéissant. Celui qui dit, oui, mais bon, c'est écrit, mais c'est plus pour aujourd'hui, puis c'est pas comme ça, puis maintenant, il y a eu des autres révélations qui disent que faut prier comme ci, faut prier comme ça, hein, faut mettre des petites bougies, tout ça. Mais, mais mes frères et sœurs, s'il vous plaît, revenez à la simple parole de Jésus. Ayez sinon de l'amour pour sa parole, au moins du respect. Si vous êtes obéissant, vous soumettant au roi, puisque c'est un royaume, à Jésus qui est le roi, eh bien vous avez un rôle important à jouer en son nom sur cette terre. Et c'est pourquoi, après nous avoir sauvés, après s'être révélé à nous, il nous a laissés ici-bas. Il aurait pu nous prendre tout de suite, mais non, il nous laisse ici-bas pour que nous soyons ces témoins vivants qui montrent l'exemple et qui sont confirmés par Dieu par des œuvres de puissance qu'il fait au travers de nous. Les apôtres ont commencé, sont allés partout, prêchant la parole de Dieu, et Dieu confirmait ce qu'il disait en accomplissant des miracles. Vous trouvez ça dans les derniers versets de l'évangile de Marc 16. Et il n'a pas changé, il fait toujours la même chose. Il y a simplement de nouvelles personnes pour obéir ou pour désobéir, pour se soumettre à sa parole ou pour ne pas se soumettre à sa parole. Alors, celui qui obéit, il fait partie du plan complet du salut. Nous appartenons à la famille royale de Dieu. Alors, en tant que tel, nous ne pouvons pas nous comporter comme des gueux, comme des rebelles, comme des désobéissants, comme des fantaisistes. On ne peut pas. On fait partie de la famille royale. Nous devons faire preuve de noblesse, d'allégeance envers Jésus seul. Nous appartenons à la famille royale de Dieu, notre Père. Maintenant, tout ce que Christ possède, ça nous appartient. Romains 8, 14. Romains 8, 14. Il faut que je le trouve. Je croyais que j'avais noté, mais non, je ne l'ai pas noté. Alors, Romains 8, 14, versets 14 à 17. Car si vous vivez suivant la chair, c'est-à-dire suivant vos sentiments, suivant vos pulsions humaines, vous mourrez, mais si par le moyen de l'esprit vous mortifiez les actions de votre corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être de nouveau dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Père ». Et l'Esprit, le Saint-Esprit, rend témoignage lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, il continue au verset 17, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ, s'il est vrai que nous souffrions avec lui, afin que nous puissions aussi être glorifiés ensemble. Ah, nous sommes héritiers. Tout ce qui est à lui est à nous. Est-ce que vous comprenez qui vous êtes ? Vous êtes un fils de Dieu, vous êtes une fille de Dieu. Dieu est votre Père et tout est à vous. Mais Heureusement, tout est à vous à certaines conditions, parce que si tout était à tout le monde, ça serait épouvantable. Ça serait vraiment la confusion et le désordre. Mais il y a de l'ordre afin de faire la différence. Et la première condition, c'est que vous croyez que vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. Deuxièmement, la deuxième condition, c'est que vous vous comportiez comme des fils et des filles du Père Céleste, et non comme des religieux de pacotille ou comme des grossiers personnages qui font ce qu'ils veulent tout le temps, n'importe comment, avec les meilleurs sentiments du monde, mais complètement à côté de la plaque. Vous êtes dans la famille royale, vous n'en sortez pas. Et il y a des règles. Il y a des privilèges, mais il y a des règles. Et troisièmement, c'est donc que vous fassiez sa volonté qui est écrite dans le livre, dans la Bible. Alors vous avez vu, il y a deux façons de vivre ici-bas. On vient de le lire. En suivant la chair, c'est-à-dire nos passions, nos envies, nos désirs, le monde, les religions, notre caractère, en faisant ce que les gens, en nous soumettant à n'importe qui. Si nous faisons ça, nous mourrons, c'est-à-dire nous serons séparés de Dieu lors du jugement. Ou alors, la deuxième façon, en mortifiant les actions qui viennent de nos cinq sens. Ça signifie en tenant pour nul et non avenu tout ce qui résulte de l'humain, de la chair. Car, ajoute Paul, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils et filles de Dieu. Et être conduit par l'Esprit de Dieu, ce n'est pas être conduit au gré de notre imagination. Non, 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 non. C'est être conduit par la parole de Dieu. C'est ne pas trébucher sur la parole de Dieu. C'est l'accepter, c'est la croire et c'est la mettre en pratique. Un jour, Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous devez vivre de la parole qui est sortie de la bouche de Dieu que les apôtres et les prophètes ont transcrite dans la Bible. Et la Bible, c'est la lettre de Dieu à l'humanité. Vivez donc selon la parole de cette nouvelle alliance, de ce que nous appelons le Nouveau Testament, et inspirez-vous des histoires racontées dans l'Ancien Testament, afin de ne pas commettre les erreurs que les Juifs ont commises à l'époque. Mais maintenant, nous sommes dans la nouvelle alliance. Je ne dis pas qu'il faut rejeter l'Ancien Testament, mais c'est surtout le Nouveau Testament qui est votre guide de vie. Vous avez aussi des psaumes, vous avez des proverbes, et toute la Bible est bonne. Mais c'est le Nouveau Testament qui maintenant vous donne l'éclairage. Jésus est venu pour nous donner l'éclairage nécessaire pour pouvoir être sauvé d'une façon complète. C'est pourquoi j'intitule mes prédications, cette série, le plan complet, le plan du salut complet en Jésus-Christ. Alors, vous voulez être heureux, vous voulez que les choses fonctionnent dans votre vie et dans la vie de ceux que vous aimez, bien faites ce que je vous dis, sinon ben faites le contraire. Voilà. Seigneur Jésus, je te prie de bénir mes frères et sœurs, de leur donner un esprit soumis, un esprit paisible, et qu'ils acceptent de faire ce que tu dis afin d'être heureux. Je te le demande dans le nom béni de Jésus-Christ, ton Fils, mon Dieu. Amen. Amen. Au revoir, à bientôt. Merci.